Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'épisode numéro 137 dont le sujet de la semaine est le deal entre Aston Martin et Honda qui sera effectif dès l'année 2026. Pour parler de tout cela, j'accueille avec moi Anna Maria Mercado Lopez. Salut Anna Maria.
Salut Abdou.
Comment vas-tu?
Très bien, c'est l'été.
Oui, écoute, on n'est même pas au mois de juin, on est presque au mois de juin. Puis on a déjà de la canicule, donc je ne sais pas si ça augure bien pour le Grand Prix du Canada qui aura lieu dans à peu près 2 semaines. Alors, on va prendre les 31 degrés pour commencer avant de voir si on aura des températures chaudes lors du Grand Prix du Canada. Mais... il y aura un Grand Prix du Canada en 2026 et ce sera avec Aston Martin Honda puisque le 23 mai dernier, c'était confirmé à Tokyo que Aston Martin dès 2026 aura un moteur Honda dans leur voiture verte. C'était une rumeur qui était lancée dans l'air depuis plusieurs mois et qui est maintenant devenue officielle. Donc, Honda va faire de Aston Martin une équipe d'usine, donc ce qui fait en sorte qu'elle va retourner en Formule 1 officiellement avec le nom Honda pour la première fois depuis 2021. Donc, Anna Maria, qu'est-ce que tu penses globalement du deal entre Aston Martin et Honda?
En général, je pense que c'est une bonne affaire parce que depuis que Red Bull a annoncé son association avec Ford, on pensait que Honda y allait partir de la Formule 1, mais Honda aussi a annoncé son engagement avec la Formule 1 et on pensait c'est avec qui va rester une nouvelle équipe, ils vont faire une équipe d'usine, ils vont aller chez McLaren encore, mais finalement, l'euro celui, c'est Aston Martin. Et c'est bien pour eux aussi, parce que comme ça, ils vont avoir une équipe, un fournisseur à eux-mêmes, et pas dépendre de Mercedes.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en lisant l'article, l'analyse de Lawrence Barreto sur le site officiel de la Formule 1, on apprend aussi que Honda avait déjà des plans de revenir en Formule 1, surtout avec, je pense, le changement de direction aussi à la barre de Honda. Donc, on voulait vraiment revenir en Formule 1 après avoir dit qu'on arrêtait avec Red Bull. Et là, on apprend dans le texte que... il y a eu d'abord des discussions avec un troisième mariage avec McLaren, comme tu l'as mentionné. Ce serait un deuxième mariage avec Williams. Et la troisième option aussi, selon des sources, ce serait, et selon Lawrence Barreto, ce serait avec Hightech qui roule présent, qui a des écuries en Formule 2 et en Formule 3 et qui a des ambitions d'aller en Formule 1 d'ici 2026 minimum. Donc, Hightech aurait des moteurs Honda si jamais elle voulait y aller, mais ils ont décidé d'y aller avec Aston Martin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que... j'ai l'impression que c'est un bon deal, puis ça va, et on va reparler aussi justement dans les ambitions de grandeur d'Aston Martin et de Lawrence Stroll d'être une des meilleures équipes du plateau. Ça commence bien, il y a une belle progression. Donc, le fait d'avoir un des meilleurs moteurs qui, en fait, veut revenir en Formule 1 pour des raisons écologiques, évidemment, je pense que ça serait un bon fit. Donc, j'ai bien hâte de voir. Et en plus que, évidemment, avec Ferrari, Mercedes, Renault, Audi qui va s'associer avec Sauber, Ford qui s'associe avec Red Bull, et maintenant Honda qui va s'associer avec Aston Martin. Je trouve qu'au moins, on aura une belle variété de moteurs. Et c'est même deux ou trois de plus que ce qu'on avait, ce qu'on a dans le... C'est même deux ou trois de plus qu'on a que ce qu'on a présentement, si mes calculs sont bons. Donc, au moins, pour 2026, ça donne une belle diversité motoristique.
C'est ça, une belle diversité. Il y a plus que la Formule 1. Depuis qu'on introduit les moteurs V6 hybrides, il y avait comme la difficulté à faire revenir les marques, parce que tous ils sont partis vers la Formule E, mais que maintenant avec les nouveaux moteurs, des nouvelles marques qui vont rentrer, Ford qui revient, Honda qui revient, et il faut dire que Honda est comme jamais parti non plus, parce que si bien sûr qu'il est fini avec Red Bull, et la collaboration il a quand même resté. C'est juste que c'était plus les moteurs Honda comme tal.
Ouais. Et surtout aussi que, et là on va passer aussi au prochain sujet, c'est que pour Honda, c'est un autre retour en Formule 1 officielle.
You're joking. Not another one?
Donc, eh oui, c'est un autre retour pour... Honda dans la catégorie reine de la course automobile. Évidemment, leur premier relais, c'était entre 1964 et 1968. Ensuite, ça a été de 83 à 92 avec, entre autres, des passages avec surtout McLaren, mais aussi Williams. Ensuite, ça a été de 2000 à 2008 avec des partenariats avec BAR, Jordan. Puis ensuite, ben là, ça a été un retour en 2015 avec McLaren qui s'est le deuxième mariage avec McLaren qui s'était assez bien passé, entre guillemets.
GP2
Engine. Ensuite, ça a été le pass. Et entre-temps, ça a été le transfert de McLaren vers AlphaTauri, Toro Rosso et Red Bull jusqu'à 2021. Puis actuellement, ben là, Red Bull a les propriétés intellectuelles des moteurs Honda actuel jusqu'en 2025, puis il y a quelques employés de Honda qui aident Red Bull dans le développement du moteur, mais c'est vraiment en 2026 que Honda va revenir en tant que motoriste officiel. Donc, est-ce que ce énième retour, cet autre retour de Honda en Formule 1, est-ce que cette fois-ci, ça va être plus dans la pérennité, comme par exemple dans les années 80-92, où ça a été quand même ça a quand même été au moins une dizaine de saisons. Ça a été 10 saisons en Formule 1 quand même. Est-ce que cette fois-ci, à partir de 2026, ça va être bon? Ils vont dire là, on va pouvoir rester le plus longtemps possible en Formule 1 sans décider de quitter au bout de 4-5 ans?
Mais ça dépend aussi, ça dépend. C'est comment le retour, c'est pas le deal avec Aston Martin, combien de temps, parce qu'il faut dire qu'avant de rentrer, il faut une attente aussi avec la Formule 1 pour quelques années. C'est pas juste je reviens pour 2 années et après, pues, je vais de retour. Et cette fois-ci, au moins, comparé à la dernière fois, ils sont pas. Comment on peut dire, ils sont actualisés parce qu'ils sont restés, ils vont participer à la nouvelle réglementation aussi. Ce n'est pas comme la dernière fois qu'ils sont arrivés à la dernière minute et étaient un peu en retard en comparaison avec Ferrari, Mercedes et Renault. Je pense que ça va. Au moins, rester un petit peu plus, j'espère. Et en plus, comme c'est Aston Martin, tu sais, Aston Martin, pour les voitures, il faut un moteur. Ils ne font pas de moteur. Mm-hmm. Les voitures de route.
Ouais, ils font des voitures, effectivement.
Mais... Ça aussi, pour faire partie des deals.
Mm-hmm. C'est vrai, ça fait partie du deal, effectivement. Et puis, moi, je pense aussi que dans les circonstances aussi, pour Honda aussi, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer leur volte-face, vers la Formule 1. Évidemment, on parle de la nouvelle réglementation des moteurs, parce que Honda a cité aussi, lorsqu'ils ont décidé de quitter la Formule 1 à la fin de leur partenariat avec Red Bull à la fin de la saison 2021. C'est surtout pour essayer d'atteindre neutralité carbone d'ici 2050. Donc, c'est vraiment un changement de vocation, en fait. Et évidemment, là, c'était avant que la FIA et la Formule 1 décident de l'allure des nouveaux moteurs. Et évidemment, avec l'innovation du MGUH, qui est en fait l'utilisation des chaleurs de gaz d'échappement pour générer de l'énergie, réduire le temps de réponse du turbocompresseur. Merci à motorsport.com pour la source, en fait. Tout ça aussi, ça s'est venu jouer en fonction de tout ça aussi. Donc, le règlement moteur en 2026 va enlever le MGUH et ils vont mettre l'accent sur le MGUK, donc toute l'énergie récoltée par le freinage. Donc, tout ça, au moins, on passe à un autre niveau. Et je crois que Honda s'est dit, bon, on embarque dans le projet finalement. Et évidemment, avec le nouveau PDG d'Honda qui était là depuis, je pense, un an ou deux aussi, qui a dit, ben, c'est un bon plan aussi. Et l'autre raison aussi, c'est la popularité de la Formule 1, en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, parce que Honda est quand même, les États-Unis est quand même un des plus gros marchés pour Honda, donc et Acura aussi, parce que Acura appartient à Honda aussi, donc c'est vraiment une des raisons aussi pour, évidemment, booster leur vente de voitures, ce qui est déjà assez intéressant. Alors, ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle Honda a décidé de faire demi-tour et de revenir en Formule 1. Évidemment, aussi, ils ont leur implication en IndyCar en étant un des deux motoristes officiels dans la série avec Chevrolet. Donc, évidemment, ça peut aider à permettre à Honda de finalement revenir en Formule 1 puis de dire, ben là, cette fois-ci, on est sérieux. Le projet du nouveau moteur est très intéressant. On sait qu'on est assez bon pour vendre des voitures, nos voitures aux États-Unis. Et avec la Formule 1 qui est de plus en plus populaire, avec 3 courses dans le pays américain, ben, on peut garder notre... On peut garder nos opportunités de plus grosses ventes. Donc, ça aussi, ça peut expliquer aussi une des raisons pour laquelle Honda veut revenir en Formule 1 d'ici 2026.
Oui, c'est sûr. Il y a les grosses machines nord-américaines, il y a la popularité de la Formule 1. Il y a aussi que, finalement, quand Honda avait décidé de partir de la Formule 1, ça n'allait pas très bien, mais ils ont réussi quand même à gagner des championnats. Même si c'est Red Bull maintenant qui a les moteurs, c'est un développement de Honda qui a bien réussi. Et que je pense que ils ne voulaient pas rester à l'arrière. Quand tous les marques reviennent, il faut qu'ils restent. En plus, ils sont élevés déjà les GP2G.
Ouais.
Qui a fait mal aussi à la compagnie.
Aussi, oui. Oui, ça a vraiment fait mal à la compagnie, à Fernando Alonso dans ses projets de compléter cette triple couronne en essayant de remporter les 500 000 d'Indianapolis. On reviendra d'ailleurs sur justement le pilote espagnol. Mais est-ce que le fait de perdre officiellement, c'était déjà écrit dans le ciel avec le deal avec Ford, mais est-ce que le fait que Red Bull et Honda ne se soient pas décidés de renouveler leur mariage pour commencer en 2026 à nouveau, est-ce que ça peut faire mal à Honda ou est-ce que c'est mieux s'ils s'essayent ailleurs qu'avec Red Bull?
Mais je pense pas que ça aurait fait mal à Honda parce que en tout cas Honda il avait déjà parti dans ce moment-là, il avait déjà parti. Et en plus, Red Bull, tu sais, on parlait de marché américain, une marque de moteur américain, c'est sûr que Red Bull allait sauter sur l'opportunité. Mm-hmm. C'est un bon deal, mais maintenant on va voir ce que ça va donner aussi, parce que ça fait longtemps que Ford n'était pas en la compétition de Formule 1.
Ouais.
Et que il arrive tout nouveau. Mm-hmm. On va dire qu'il arrive comme Honda la dernière fois.
Parce que on parle de ça aussi, c'est que Honda s'embarque dans un nouveau projet de moteur, comme ce fut le cas en 2000. Quand ils ont signé avec McLaren pour avoir des moteurs turbo, V6 turbo hybride, comme on les connaît actuellement en 2015, c'était un nouveau projet pour Honda. Les débuts ont été catastrophique. Et là, Honda et McLaren ont trouvé une entente pour mettre fin au partenariat. Là, ils sont allés avec la famille Red Bull, en commençant avec Toro Rosso. Mais au moins, ils avaient un peu plus d'expérience. Et aussi, disons que Red Bull et Honda il y a eu un sentiment de collégialité entre les deux parties. Alors que j'avais l'impression du côté de McLaren et Honda, c'était beaucoup plus exigeant. Et je pense que c'est pour ça aussi que évidemment, Honda a eu beaucoup plus de succès avec Red Bull et maintenant le moteur actuel, même si c'est un Red Bull Powertrains et tout ça, là, ça reste un moteur Honda, mais c'est un des meilleurs moteurs actuellement du plateau. Mais c'est parce que j'ai trouvé que au moins, il y a eu beaucoup plus de liberté qu'avec Red Bull qu'avec McLaren. Et là, avec Aston Martin, surtout, on va faire la transition tout de suite après. Les ambitions de Aston Martin de devenir une grosse équipe, évidemment, ça va donner un peu plus de pression à Honda, tu ne trouves pas?
Oui, puis non. Parce qu'en même temps, comme j'avais dit, Tato, quand ils ont rentré avec McLaren, Honda est arrivé à la dernière minute. Mm-hmm. Le deal est annoncé, mais juste à la dernière minute. Mais maintenant, ils ont déjà annoncé qu'ils pouvaient déjà participer au développement de ces moteurs. Aussi, ils pouvaient déjà participer à la prise de décision concernant la réglementation. Ce qui n'était pas fait quand ils sont retournés avec McLaren. Mm-hmm. Ils sont arrivés et tout était déjà instauré, que Honda n'a pas participé comme acteur dans la réalisation de la nouvelle réglementation. Mais maintenant, oui, ils sont déjà là, ils travaillent déjà avec Red Bull et bon, dans ce sens, que je pense que ça aurait été plus facile aussi. Je pense que Aston Martin, c'est plus facile à travailler, je pense, que ce qu'ils faisaient avec McLaren, parce que McLaren y avait une philosophie bien instaurée avec Ron Dennis, et on dirait qu'ils ne se comprenaient pas, et chacun voulait faire sa partie de son côté. Et c'est là que ça ne marchait pas, parce que Honda y essayait, mais en même temps, et McLaren il disait, mais non, les moteurs ne marchent pas, mm-hmm. Et il ne faisait aucun effort non plus pour aider. Ouais. Dès qu'ils sont arrivés chez Red Bull, Oh, on dirait que Red Bull a dit, OK, qu'est-ce que vous voulez, on va vous aider et ça marche.
Et aussi, s'il y a quelqu'un qui a pu au moins donner un petit avant-goût de ce que Aston Martin peut s'attendre, c'est Dr. Helmut Marko qui a parlé avec Motorsport Magazine récemment, en fait, disant que Honda est assez restrictif en ce qui concerne la communication sur le moteur. Donc, évidemment, je répète, pour Red Bull Powertrains, la propriété intellectuelle et tout ce qui se rapporte, ça appartient à Honda. Donc, ils n'ont pas plus d'informations. Donc, Honda leur communique quand, tout ce qui est en lien avec le moteur quand ils le veulent. Donc, je ne sais pas si je pense que ça a été probablement la même chose avec McLaren dans le passé avec le même moteur V6 turbo hybride. Donc, au moins, parce que moi, je vois un Lawrence Stroll qui a dépensé tellement d'argent, puis on va passer tout de suite aux ambitions. Aston Martin a dépensé, Lawrence Stroll a dépensé beaucoup d'argent pour une nouvelle usine à Silverstone, qui est, d'ailleurs, j'ai vu les images aujourd'hui, c'est de toute beauté. L'écurie est allée chercher de gros noms. T'es allé chercher Martin Whitmarsh, Dan Fallows et plein d'autres gros noms côté mécanique. Évidemment, Fernando Alonso comme pilote. Et tout ça dans l'ambition de gagner dans les prochaines années. Et là, c'est peut-être là aussi où justement Aston Martin a ses ambitions clair et net, et je pense que ça peut fonctionner avec Honda si on décide de ne pas trop, excusez-moi le terme, rusher les trucs, c'est-à-dire ne pas trop faire ça vite parce qu'on veut les succès, ce qui est normal parce que quand tu as des ambitions, tu veux que ça soit fait, mais il faut s'attendre aussi à ce qu'il y a des moments chaotiques. Des qu'il y ait aussi des creux durant le partenariat, mais c'est de savoir comment se relever et de ne pas céder à la panique comme ça a été le cas avec McLaren entre 2015 et 2017.
Oui, c'est ça, parce que je trouve que McLaren il était comme un petit peu un délestage de côté de l'équipe parce que il voit que l'auto c'est pas juste un moteur. Il y a Williams qui ont un moteur Mercedes et pourtant ils ne marche pas, ils ne sont pas en train de gagner comme l'a fait Mercedes avec sa voiture. Et il faut compenser et de ce côté-là, ce que je vois, c'est Aston Martin, ils travaillent. Mm-hmm. Et que si eux ils travaillent, ils peuvent s'épargner un petit peu mieux avec qu'est-ce qu'il y a, parce que c'est sûr qu'il y a fait Red Bull aussi, ils ont commencé avec Honda, ça ne marche pas, mais quand même, ils ont réussi à gagner des courses.
Oui, exact, donc ils tentent.
De côté McLaren, est-ce que tout était mis sur les dos de Honda, et c'est là que je pense que ça peut marcher.
Exactement, et c'est là où justement je vois que au moins ce deal est très bon pour Aston Martin, c'est que au moins il va y avoir une collégialité, je le sens, qui va être assez intéressante. Et surtout, bon, Honda, c'est à quoi s'attendre en termes de conception moteur, maintenant qu'ils l'ont fait, que ça a pris un peu de temps, évidemment, et le développement. Mais maintenant, c'est avec de nouveaux partenaires. Donc, ça aussi, c'est là où je vois Aston Martin vraiment au-delà de leurs affaires. Là, cette année, ça va bien. Puis ça montre aussi où l'écurie se place et est-ce que ça va durer dans les prochaines années. Maintenant, arrivons en 2026 et est-ce que ça va être encore le cas lorsque le moteur va être prêt à rouler pour les premiers essais pré-saison et aussi les premiers Grands Prix de la saison. Donc, c'est là où je dis on va tester la patience d'Aston Martin si jamais, advenant que ça, tout se passe bien d'ici la fin de la saison 2025, comment ils vont arriver avec Honda en 2026. C'est sûr qu'il va y avoir des discussions entre les deux parties avant 2026. Donc, au moins, ils vont préparer un peu le terrain. Puis là, quand ça va arriver pour mettre le moteur dans la voiture pour qu'elle roule, c'est là où on va voir comment ils vont... comment tout va s'arranger, en fait.
Oui, c'est ça. Il y a encore des temps pour travailler. On attend de toute façon quand ça va commencer. Ils sont tous au même départ.
Mm-hmm.
Et il y a pas juste Honda, il y a aussi Ford, qui est nouveau. Il y a aussi Audi, Porsche. J'ai oublié c'est quel des deux qui va faire le moteur, mais il y a aussi pour Mercedes, Ferrari, c'est la même affaire. Mais Renault, tu vois, Renault est là depuis longtemps et ça n'a pas encore réussi.
Oui, présentement, Renault a juste un fournisseur, une écurie qu'il fournit, c'est leur propre écurie Alpine. Donc, évidemment, bon, on parle de Andretti, mais ça... il n'y a rien qui est coulé dans le béton encore, et c'est encore loin du compte. Et j'ai parlé de Fernando Alonso. Je sais que c'est beaucoup trop tôt. Là, on est en 2023. Il reste encore 3 ans, mais il y en a beaucoup qui parlent de voir est-ce que Alonso et Honda, la réunion va être plus harmonieuse que ce fut dans le passé? D'abord, je préfère attendre de voir si Alonso va d'abord rester en Formule 1 d'ici là, parce que oui, il va arriver à 44 ans. Je sais qu'Alonso en a encore dans le corps. Là. On le voit cette année. Et je sais qu'il a l'ambition, mais... je pense que c'est beaucoup, beaucoup, mais beaucoup trop tôt pour parler d'une réunion possible d'Alonso avec Honda d'ici 2026. Ben, pour 2026, devrais-je dire.
Non, mais oui, c'est ça. On ne peut pas rien prédire d'ici là, mais on sait que Fernando, il est déjà... Il y a des bonnes performances et en forme, mais d'ici à 2026, on ne sait pas.
Mm-hmm.
Et on ne sait pas si ça va rester avec Aston Martin. Tout le monde l'a dit. Mais lui-même a dit, mais je ne sais pas ce que je ferai d'ici à 2026. Et lui aussi est conscient qu'il ne reste pas beaucoup de temps.
Mm-hmm. Et aussi, il faut aussi préciser que, bon, advenant qu'Alonso reste en Formule 1 jusqu'en au-delà de 2026 et tout ça, Honda a dit qu'elle n'a pas d'objection pour être réunie avec Fernando Alonso, surtout après les épisodes de 2015 à 2017 où, évidemment, les moteurs Honda avec McLaren, c'était pas très bien. Fernando qui dit GP2 Engine à la radio au Grand Prix du Japon qui a été un énorme sacrilège pour Honda de se faire insulter de même à la maison, devant leurs propres partisans, devant les PDG, la grosse direction d'Honda. Mais là, force est d'admettre que je pense que...
c'est la diplomatie qui s'impose.
C'est ça, c'est une question de diplomatie, évidemment. Est-ce que vraiment on va imposer des trucs arrivés en fin 2025? Parce qu'il faut aussi préciser que le contrat actuel de Fernando Alonso ne sera pas jusqu'en 2026. Je pense que c'était 2 plus 1, donc on parle de 2023-2024, plus une année d'option pour 2025, si je me souviens bien. Alors, techniquement, Il a déjà 2 ans d'assuré avec Aston Martin. Peut-être 2025. Donc, on ne sait rien de ce qui va se passer en 2026.
Non, c'est ça. Il est trop tôt pour parler. C'est ça. Comme je t'avais dit, c'est la diplomatie qui s'impose. Il ne peut pas rien dire. Mais de toute façon, ils ne sont pas là. Il ne sait même pas si lui sera là en 2026. Il ne peut pas rien dire. Non, je ne vais pas travailler avec lui. C'était pas nécessaire. Je dis, là, c'est la diplomatie. On dit, on attend que ça arrive. De toute façon, ils ont laissé clair que il voulait aussi des pilotes japonais.
Mm-hmm.
Et ça, c'est les messages étaient donnés.
Oui. Donc, oui, effectivement, ça...
Ils n'ont pas comme une bête sur les pilotes, mais pour faire des recommandations, il faut que des pilotes japonais, c'est ça.
Mm-hmm. Et ça aussi, parce que, comme je disais, tout ce qui s'est passé entre 2015 et 2017 a eu des répercussions aussi aux États-Unis quand Alonso a tenté pour une deuxième fois de participer aux 500 000 d'Indianapolis et qui s'est fait éliminer en qualification par Carl Kaiser. Oui, Alonso a roulé avec McLaren Andretti Honda en 2017, puis ça s'est bien passé jusqu'à ce que son moteur fasse bang. Mais en 2019, c'était avec un moteur Chevrolet et ça ne s'était pas bien passé pour n'importe quelle raison, mais ça aurait pu être le scénario aurait peut-être pu être différent avec un moteur Honda dans la dite McLaren en partenariat avec Carlin. Donc évidemment Honda n'aura pas le contrôle de la sélection des pilotes. Peut-être qu'ils vont avoir un certain droit de regard concernant le japonais, on reviendra là-dessus, mais je pense qu'ils ne vont pas vraiment s'opposer à avoir un pilote de haut niveau pour les aider à développer la voiture, mais aussi le moteur, parce que ça va être beaucoup ça. On part sur une page blanche, donc il faut avoir beaucoup de feedback du côté du pilote. Et en Fernando Alonso, si, par exemple, on me disait, cette année, par exemple, je prends un exemple, Hyundai. Hyundai décide finalement, Cyril Abiteboul dit, on rentre en Formule 1 pour 2024 et décide d'avoir son propre moteur avec une écurie existante et un pilote d'expérience. Il va utiliser l'expertise du pilote d'expérience pour le développement de la voiture, mais aussi du moteur pour voir, parce que je pense que je regardais une entrevue qu'Alex Albon donnait à GQ sur YouTube, puis il dit les pilotes sont presque des ingénieurs aussi, parce qu'ils aident aussi dans les données, la transmission de données, et ça peut être important aussi pour un moteur.
Bien sûr que la contribution du pilote, c'est important parce qu'à la fin, c'est pas l'ingénieur qui va tester. Mm-hmm. C'est vous qui roule dans la voiture et qui vous dit où il faut chercher la vitesse, c'est quoi la petite chose qui manque, qui y a trop. Mais c'est sûr que c'est important, mais dans ce moment-là, je dis qu'on est loin pour parler de Honda Fernando, c'est encore loin. Et c'est pas, comme je l'ai dit avant, c'est pas le même deal. Tu te rappelles que Honda y est arrivé avec McLaren et aussi il y avait fait beaucoup d'investissements dont, quand on parlait les médias, c'est que il payait aussi le contrat de Fernando, c'est ça aussi.
Mm-hmm. Ouais.
Parce que on était allé chez Ferrari.
Mm-hmm. Ouais.
Et je pense que c'est là que ça compromet beaucoup qu'est-ce qui s'est passé, parce que Honda y collaborait aussi, pas juste, c'était pas juste un motoriste, ça faisait partie de l'investissement. Et dans ce moment-là, McLaren disait, on n'a pas de problème parce qu'on a assez d'argent.
Ouais, effectivement. Donc, moi, j'ai hâte de voir. Puis aussi, bon, Honda aussi a un passé avec, pas Aston Martin en tant que tel, mais avec l'équipe qui est basée à Silverstone. Donc, il faut remonter, en fait, à la fin des années, vers les années, fin des années 90, entre autres, avec Jordan. Surtout 98-99 avec des Mugen Honda qu'ils ont roulé. Et surtout, ils ont gagné des Grands Prix. Damon Hill en 98 en Belgique. Et même Heinz Harald Frentzen qui était sur une charge pour aller gagner le championnat, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Et aussi, Honda va retrouver Martin, devrait en principe retrouver Martin Whitmarsh parce que c'est lui qui était derrière, qui était en fait une pièce maîtresse derrière la réunion entre Honda et McLaren avant que ça ne tourne au vinaigre. Donc, je crois que, au moins, dans ce cas-ci, si on peut repartir sur de nouvelles bases avec Honda et Fernando Alonso, peut-être qu'avec certains aussi des membres qui étaient là depuis avec Jordan dans les années 90 vont pouvoir recollaborer à nouveau, mais ça reste à voir. Sinon, on a parlé d'un pilote de l'arrivée possible d'un pilote japonais. Là, j'ai beaucoup entendu dire, est-ce que Yuki Tsunoda pourrait pas être une bonne solution pour Aston Martin et Honda? Parce que Tsunoda a, je pense, depuis tout au long de sa carrière, a été parrainé par Honda. Puis c'est encore le cas avec AlphaTauri. Même dans les catégories juniors, c'était un partenariat avec Honda. Et là, arrive 2026. Est-ce que tu crois, Namaria, que Honda, on veut vraiment avoir un pilote japonais comme, par exemple, Yuki Tsunoda?
Je sais pas, mais je pense que Honda, il est plutôt Ben, selon moi, le message, c'est que Aston Martin, il faut qu'il développe l'école de la relève. Et c'est là que, dans les programmes des gens, il peut rentrer un japonais, je pense, parce que Yuki, oui, c'est possible. Ben, regarde, on a vu Sato avec Honda pendant des années.
Oui.
C'est pas folle non plus.
Et c'est encore le cas même en IndyCar. C'est encore le cas même en IndyCar. Sato roule avec des équipes qui ont je pense que Chip Ganassi avec si je me trompe pas. Je pense que Chip Ganassi, parce qu'il roule pour Chip Ganassi sur les circuits ovales. Mais il faudrait que je vérifie pour voir si c'est encore le cas pour Takuma Sato. Mais sinon, en Formule 1, c'est vrai. Avec Jordan.
Mais oui, il a resté tant que Honda était là et Sato était là.
Exactement. Donc, c'est ça. Ça pourrait être encore le cas avec Tsunoda, mais aussi Ayumu Iwasa, qui est présentement en Formule 2, qui fait très bien sa deuxième saison dans l'antichambre de la Formule 1 et qui est surtout bien vu par Honda. Iwasa est un de mes pilotes préférés, il fait très bien présentement. Alors, oui. Et puis, je te confirme, Anna Maria, Chip Ganassi est avec Honda en IndyCar. Donc, ce qui explique aussi Takuma Sato. Mais c'est ça. Moi, et en plus, tu vois, il y avait le programme Honda Racing Dream, Formula Dream Project, qui est un projet comme une académie de jeunes pilotes. D'ailleurs, Tsunoda fait partie de ce projet, Iwasa aussi. Puis, je pense aussi que ça peut être une très belle initiative, par exemple, pour Aston Martin, d'avoir le renfort de Honda pour justement ce programme et d'avoir des pilotes qui peuvent développer. Comme on l'a vu, par exemple, avec Red Bull, on voit Tsunoda, Iwasa, un jour, je lui souhaite d'aller en Formule 1 parce que je sais que ça va être Liam Lawson qui va avoir un volant avant lui. Mais si un jour, Honda dit, bon, je disais peut-être avoir un droit de regard, mais si Honda veut imposer à Aston Martin d'avoir un pilote japonais dans ses rangs, ben Tsunoda, Iwasa, pour moi, présentement, si tout va bien, pourrait être des choix numéro un.
Oui, c'est ça. C'est la première chose qu'on revient, c'est Yuki, parce que lui était avec Honda depuis le début à Alpha Tauri. Mm-hmm. Et on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va se passer avec Alpha Tauri, parce qu'on sait que Red Bull s'en va avec Ford, mais qu'est-ce qui se passe avec Alpha Tauri? Ce ne serait pas la première fois qu'il y a une équipe que Red Bull et son petite école, ils sont motorisés pour des marques différentes.
Mm-hmm. Mais puis même, je pense aussi dans le passé, Sauber avait un genre de partenariat avec Ferrari aussi. Puis, par exemple, Felipe Massa a commencé sa carrière avec Sauber, mais en même temps, était un pilote d'essai chez Ferrari. Donc, ça peut arriver d'avoir, par exemple, des équipes ou des motoristes qui demandent d'avoir un pilote dans leur rang. Donc, c'est possible. Mais aussi, je me demande, est-ce que le partenariat avec Aston Martin et Honda fera pas en sorte que Honda va devenir une écurie en soi? Je sais pas trop. Est-ce que ça pourrait être le cas que Aston Martin, est-ce que ça redevienne Honda? Est-ce que tu crois que ça va être fort? Non,
hein. Ça peut devenir peut-être c'est bizarre, mais Aston Martin Honda, mais McLaren Honda, on a déjà vu.
Oui.
Et comme je t'avais dit, Aston Martin, il ne fait pas de moteur.
Oui.
Parce que ce n'est pas folle non plus si tu dis un Aston Martin Honda, mais Honda, que toute l'équipe il devient Honda, je ne pense pas.
Mm-hmm.
Je ne pense pas, parce qu'on voit déjà l'engagement d'Aston Martin, nouvelle usine et tout. Ça, je pense qu'ils n'ont pas fait ça pour partir.
Mm-hmm. Ouais.
Parce que si l'équipe, ça devient Honda, ça veut dire qu'Aston Martin est plus là.
Ouais.
Et ça, c'est l'essence, mais que non, il n'y a aucun sens là.
Mm-hmm. Mais c'est ça, là. Moi, j'ai hâte de voir, parce que ça va être un choix. Ben, moi, je pense qu'Aston Martin a de belles ambitions, mais je crois que, évidemment, ces ambitions vont probablement prendre un creux avec l'arrivée d'Honda, parce que c'est pas tous les partenariats qui commencent aussi fort. Et moi, je pense que ça, il va y avoir des anicroches, il va y avoir des moments difficiles, mais c'est là où on va voir comment l'écurie va se débrouiller. Je pense que même Le partenariat avec Toro Rosso Red Bull aussi, ça n'a pas aussi bien commencé, mais au fil des années, ils ont continué à travailler ensemble, même si, bon, ce que Helmut Marko disait à propos que la communication sur le moteur de Honda peut avoir un impact, mais quand on regarde ce qui se passe en ce moment, ben Honda est c'est une sacrée bête.
C'est ça. Mais en tout cas, de toute façon, si on parle de communication de moteur, Mercedes, ils ne donnent pas d'informations non plus, ils donnent un moteur. Point.
C'est ça. Mais ce sont des clients, en fait. C'est ça.
Ils ont des clients avec qui il faut les prendre
Aston
comme ça.
Aston Martin, mais... Williams, même McLaren, ce sont des clients. Donc,
Même Red Bull, quand il a travaillé avec Renault, il était aussi difficile le travail. C'est pas facile non plus.
Ouais. Mais c'est ça. Donc, moi, je pense que au moins, on va voir comment à partir de maintenant-ish. Et on va pas y aller tout de suite, mais j'ai hâte de voir si le partenariat entre Red Bull et entre Aston Martin et Honda va fonctionner sur le long terme. Parce que moi, je m'attends au court terme à ce qu'il y ait quelques failles, quelques problèmes. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, c'est à voir, mais présentement, c'est un bon coup de la part de Honda et d'Aston Martin de s'associer ensemble, surtout avec la réglementation des moteurs et surtout à cause des ambitions de Aston Martin de devenir une grosse équipe. C'est ce qui complète cet épisode du bulletin GP. Donc, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous pensez du deal entre Honda et Aston Martin. Est-ce que ça va permettre à cette équipe de se rendre au sommet sur le long terme? Et est-ce que vous pensez que ça, est-ce que vous pensez que les débuts vont être difficiles, vont avoir du succès? Laissez-nous savoir sur nos plateformes Facebook, Twitter, Instagram @lebulletingp. Nous sommes disponibles. On a aussi bulletingp.com pour écouter les anciens épisodes de podcast ainsi que les textes. Je suis toujours en rédaction du Dites et pensées qui devrait sortir, je l'espère, dans quelques jours. Il me reste encore des sujets à couvrir. Et aussi, on vous invite à vous joindre au groupe Facebook La Monoplace, avec qui vous pouvez nous converser avec Anna-Maria, moi, Julien, toute l'équipe est là. Toute l'équipe du Bulletin GP est dans le groupe Facebook La Monoplace. Et évidemment, vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées, sur Spotify, Google Podcasts et autres. Anna-Maria, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi.
Ça me fait plaisir. Évidemment, nous serons de retour pour un prochain épisode du Bulletin GP, mais on se retrouve dimanche pour l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix d'Espagne, aussi connu comme la dernière épreuve avant le Grand Prix du Canada. Donc, on a très, très hâte. D'abord pour...
Que ça finisse
et ensuite qu'on passe à notre course locale. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. Salut tout le monde!